7h16 minutes. Bonjour Pierre-Yves.
Bonjour Paul.
Alors, premier sujet ce matin, la Banque fédérale américaine, la Fed, comme on dit, qui ne touche pas à son taux directeur.
Non, et nous, du côté du Canada, ben ça nous laisse un peu comme sur les lignes de côté, parce que si les Américains disent finalement, on ne touchera pas au taux directeur tout de suite, peut-être en 2020, on est ouvert, mais arrêtez de voir le processus de baisse de taux directeur comme un automatisme quand les marchés le sentent. La consommation est correcte et soutenable, les secteurs des services est fort, donc la politique monétaire réagit, mais quand tu es de notre côté, tu dis, OK, nous, on est dépendants un peu de ce qu'ils font. Parce que s'ils baissent le taux directeur, ben, ça influence évidemment la force de notre monnaie ou la force ou non de notre monnaie. Et nous, ça influence aussi éventuellement nos prêts. Donc, quand les gens me demandent la Fed et les taux directeurs, moi, qu'est-ce que tu veux que ça me fasse, Pierre? Ben, ton taux variable, dans le moment, on a parlé cette semaine, ton taux variable qui est plus élevé que le taux fixe 5 ans sur ton prêt hypothécaire, présentement, quand tu négocies, ben, ils pourraient se retrouver plus faibles si au Canada, on baisse. Puis au Canada, souvent, on est les suiveux des Américains. Donc, il y a un lien. Ça a l'air des belles politiques macroéconomiques. Puis ça a l'air de quelque chose qui ne touche pas notre quotidien, mais ça nous touche automatiquement.
C'est
là.
Sûr.
Et les Américains, depuis 2008, ils sont passés de 0,25 de taux directeur à 2,5. C'est quand même un bon tranquille, mais un bon qui existe, mais qui a surtout eu lieu entre 2016 et 2018. Mais c'est intéressant parce que là, les gens, ils veulent. Après ma chronique d'hier, on parlait. Là, Pierre-Yves, qu'est-ce que tu penses? On devrait-tu miser sur le variable? On devrait-tu y aller fixe? Il dit, moi, là, je renouvelle en juillet. Là, on est vraiment dans des zones où, un ou l'autre, pour l'instant, au niveau de la matérialité, puis du coup, c'est vraiment un rabais. Autant spécial.
Non, mais c'est vrai qu'il faut surveiller ça parce que ça détermine le reste. Là.
Oui.
S'il y a une tendance qui part aux États-Unis, c'est sûr qu'on va l'accompagner.
On l'accompagne, puis si on les accompagne pas, ben, ça influence d'autres choses. Ça influence notre pouvoir d'achat parce que si les Américains, par exemple, leur dollar est plus fort que le nôtre, ça influence notre capacité d'exporter ou d'importer. Donc, ça touche des emplois. Donc, tout ça, dans notre vie quotidienne, a un impact direct sans même qu'on s'en rende compte.
Bon, maintenant, un cas, comme on dit, un témoignage. 7 000 $ en contravention pour avoir transporté des personnes.
Paul, hier, je suis allé voir Luc Larochelière, puis j'ai fait un excès hier. Après ça, je suis allé prendre un verre.
Sérieux?
Je fais ça. Ça m'a coûté de l'argent. Mais là, il y a les inspecteurs du bureau de taxi de Montréal, sur la rue Masson à Montréal, qui arrêtent un homme en chaise roulante de sa voiture, appellent la remorqueuse, sort la remorqueuse, et remet au gars deux contraventions de 3 750 $. Là, t'as un gars qui est en chaise roulante, qui est atteint de spina bifida, qui avait développé, disons, un service d'aide aux gens de transport. Donc, il est en concurrence, si on veut, avec le bureau du taxi. Et là, t'as deux gars, deux personnes qui disent, « Hey, nous autres, là, on va laisser à Montréal un gars de Terrebonne en chaise roulante sur la rue, 11h minuit. »
Ils partaient avec le véhicule?
Ils sont partis avec le véhicule. Et je regarde la pénalité. 7 000 $ pour ce gars-là, c'est son avenir financier. J'avais une émotion en l'écoutant. Il se pierrait, il dit, j'ai plus rien. Il dit, moi, ils m'ont tout enlevé. Ils m'ont enlevé mon système, évidemment, pour conduire une voiture. J'ai plus ma voiture, j'ai plus le système adapté. Puis j'ai plus mon travail. Il dit, avant, moi, je pouvais travailler à quelque part, mais dis-le, avec ma maladie, je peux pas. T'sais. Moi, ce qui est drôle, Paul, c'est que je m'appelle Pierre-Yves parce que mon oncle est décédé du spina bifida. Puis à l'époque, tu mourrais de ça. Lui, il a survécu, mais là, je me dis, 7 000 $ parce qu'un gars faisait du Uber sans faire du Uber. T'sais. Quand tu y penses, la pénalité économique et le coût net fiscal par rapport aux reproches qu'on lui fait, ça n'a pas de sens. Et là, tu as deux personnes avec plein de jugements qui disent, on va mettre un gars sur le trottoir, avec sa guitare puis sa chaise roulante. Il vient de Terrebonne, on est en plein milieu de la soirée, il est minuit. Puis on va le renvoyer, on va partir. Puis on va y mettre 7 000 $. Tu sais, je suis un boss du bureau du taxi un matin à Montréal. Là. J'aurais honte, pas à peu près. Les policiers sont débarqués après. Puis le gars, il a expliqué à la patente, les policiers disent, on peut rien faire parce que le bureau du taxi a juridiction sur ses contraventions. Donc, tu peux te battre, mais là, il y a un gars, là, qui essaie de s'en sortir dans la vie, puis économiquement, là, on l'a mis à terre hier. Là.
Mais tu sais pas comment c'est arrivé? Ils ont eu une plainte?
Ce qu'ils m'ont expliqué, c'est que lui était leur conduit des personnes, puis que les enquêteurs sont allés interviewer les gens.
Il y a quelqu'un qui l'a dénoncé, ça ressemble à ça.
Mettons que quelqu'un le dénonce.
Non, je sais, mais ça part de quelque part. Là,
c'est comme si quelqu'un fait du ménage chez quelqu'un, puis tu t'en vas le dénoncer pour concurrence déloyale à un empire de calinettes. Tu sais, ce qui est fulgurant là-dedans, ce qui est stupéfiant, c'est que t'as un gars, là, que tu viens jeter de son avenir économique par terre, tu le laisses à la rue, puis tout ça parce que t'as une procédure. Pendant ce temps-là, on a été combien de temps avec des Uber illégaux à Montréal? On était des mois. Est-ce qu'on a arrêté tout le monde? Parce qu'on lui donne 3 700 $ de pénalité parce qu'il n'y a pas le permis de chauffeur de taxi. Il y a juste un permis de conducteur de voiture, comme un Uber.
Non, mais c'est comme, tu sais, il y a des gens là, qui ont des petits revenus, ou en tout cas pas très... Puis ils vont reconduire des gens à l'aéroport. Pis,
ils font des livraisons de pizzeria.
Tu sais, des trucs comme ça. Puis là, c'est du transport de personnes. Fait que t'as pas le droit de faire ça. Puis tu peux te faire ramasser. Je me souviens d'un cas en Estrie, là. Mais ça n'a pas de bon sens pareil.
Mets-toi à la place du
gars. Le gars, comment il est retourné chez eux?
Il a appelé une amie en plein milieu de la nuit pour qu'elle vienne la chercher. Mais quand tu y penses, y a-tu quelque part une pénalité? Ce gars-là, là, il serait au crochet de la société s'il faisait rien. Là, il dit, moi, je fais quelque chose pour m'en sortir. Puis c'est comme si on prenait un travailleur moyen québécois, là, parce que c'est ça que c'est, puis on lui disait, « Hey, tu fais un travail un peu bizarre, je te mets une charge de 30 000 $ sur ton budget en ticket. » Puis, « Ah oui, en passant, je vais ramasser ta voiture, il est minuit, retourne chez vous, à pied, t'es à Terrebonne, t'es à Montréal. » Ça n'a aucun sens. En tout cas, s'il y a un directeur du bureau du taxi qui écoute ça ce matin pour vrai, là, moi, j'enquêterais, ça n'a aucun sens de voir le jugement humain derrière ça.
Merci, monsieur. Salut. Il est 7h22.